Bac FM, 10h31 et 25 secondes précisément, c'est parti pour votre rendez-vous ciné de la semaine. Action, on est parti, jingle.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Monster !
J'espère que tout va bien de votre côté. On va parler cinéma pendant un petit peu plus d'une demi-heure. On va parler du box-office. On va revenir aussi sur les films qui sortent. Puis j'espère que Marie, ça va bien de ton côté.
Bah écoute, ça va très bien. Et toi ?
Ça va très bien. Merci. Dans quelques minutes, tu reviendras sur la carrière d'un acteur français.
Tout à
qui
fait.
Qui fête aujourd'hui ses 59 ans.
C'est ça.
Et puis en fin d'émission, tu montes dépoussiérer un film du grenier et tu nous présentes un certain Monsieur V qui avait fait parler de lui en 2005.
C'est ça, exactement. C'est ça,
hein. Petit indice pour ceux qui nous écoutent. Comment ça va notre spécialiste de l'horreur en technique, Laetitia, ça va ?
Eh bien bonjour à tous, oui ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui il va y avoir de la nouveauté qui va m'intéresser, qui va me plaire.
Ouais, l'emprise du démon, hein, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais. Oh.
Tu nous en parles tout à l'heure parce que
je
suis pas assez calé là-dessus pour pouvoir donner mon avis.
Avec plaisir.
Ce sera dans les sorties ciné de cette semaine. J'aurai un petit coup de gueule aussi d'ailleurs à faire passer. Hein. Je suis un peu chafouin aujourd'hui. Je suis un petit peu chafouin parce qu'il y a un film qui ne sort pas au cinéma Zarin. Ça m'attriste un petit peu. Et puis des sorties pas fofolles d'ailleurs cette semaine. Heureusement, votre cinéma à Nevers vous propose trois avant-premières qui devraient vous plaire. On en parle tout à l'heure. Dans quelques instants, il y aura Pink et Clara Luciani aussi pour la musique. Mais juste avant, on revient sur le box-office français et les résultats de cette semaine. Et encore une fois, pas de gros changements. Les hommes bleus en slip qui se battent dans la mer raflent la première place. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est pas le grand bain version Schtroumpf. Hein, non, c'est le retour d'Avatar. Le deuxième volet de la saga gagne 1 700 000 entrées en une semaine. Un cumul de 10 394 000. Comme dirait Fabrice Lucchini, c'est énorme. Ça, c'est quand même énorme.
Ah oui, mais je m'attendais pas à la description du film que t'as fait.
Septième plus grand succès de tous les temps, 1,7 milliard de dollars au box-office mondial. La France, c'est le troisième pays où le film marche le mieux derrière les États-Unis et la Chine. Voilà.
Ah, c'est surprenant.
Alors, il ne bat pas encore le Titanic. Normalement, ça ne va pas arriver. Mais on en est quand même pas très
après,
très
après ça reste
loin.
Le même réalisateur, hein. Je pense que dans tous les cas il sera content.
Oui, bah de toute façon c'est une réussite dans tous les cas.
Oui, voilà.
Dans le reste du box-office, pas de gros changements avec des films d'animation toujours en forme. Car le chapeauté reste troisième. Mégane, le film d'horreur, on en avait pas mal parlé semaine dernière. Eh bien figure-toi Laetitia qu'il garde sa quatrième place et gagne 130 000 spectateurs en plus, comme Tempête qui lui gagne 15 000 visiteurs de moins mais reste cinquième. Et puis le point négatif de ce classement, c'est le mauvais démarrage de presque tous les films français de cette semaine. Les Survivants ne survit pas, lui, à la concurrence et attire que 40 000 curieux. Toujours dans un décor italien, c'est Nostalgia, le film qui lui est complètement italien. En revanche, est 9e avec 65 000 entrées. Cet été-là et 16 ans, c'est des films portés plutôt sur la jeunesse et le fait de grandir, font le même score, 45 000 entrées. La semaine dernière, on parlait justement de Cet été-là. C'est avec Marina Foïs et deux jeunes actrices aussi que justement on entendait avec le réalisateur du film, Éric Lartigot.
Il est né par la lecture d'un livre que m'avait procuré Alain Attal, mon producteur. Et à la lecture de ce livre des deux sœurs, enfin non, des cousines japonaises, j'ai craqué complètement. Et j'ai appelé très rapidement Delphine Glaise. Et on est parti en écriture sur cette belle aventure. Elles sont les protagonistes du film. C'est vraiment Rose qui est l'héroïne. Et juste après, c'est Juliette en temps de tournage et en temps de présence à l'image. Et voilà, donc on voulait créer un monde d'adultes autour et pour voir comment elles allaient résonner en face de ce monde.
Cet été-là, c'est encore à l'affiche de votre cinéma Zarin par le réalisateur de la famille Bélier. Il ne manque plus que le deuxième de ce box-office pour finir sur ce classement français. Est-ce que tu as une idée, Marie, ou pas ?
Pas du tout.
Letty, en technique ?
Oui, mais moi j'ai la feuille, alors je...
Ah oui, c'est vrai.
Tu
Oui, c'est vrai.
C'est un peu de la triche.
C'est vrai que pour le coup, la lentille sèche. Bon, bah, je le dis à ta place, hein, du coup. C'est Les Tirailleurs, le film événement de cette semaine avec le retour d'Omar Sy au cinéma. 480 000 entrées pour une première semaine. C'est très bien. Une critique presse mitigée, mais surtout une polémique après un propos de l'acteur qui a fait réagir les médias comme les classes politiques aussi et surtout l'extrême droite. Que je vous cite, il a répondu à une question qui lui a été posée sur la guerre en Ukraine. Il a dit « L'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints. » Point d'interrogation. Juger d'ingrat et de vouloir faire culpabiliser les Français, voilà la réponse qu'il a eue sur TMC dans Quotidien.
En fait, si tu veux, il y a un système qui est en place. À chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe, on vient aller chercher des polémiques, des trucs, enfin, sur ce que j'ai dit pour que je rentre dans des explications. J'ai pas envie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra. Et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. C'est juste une manière, en fait, finalement, c'est pas vraiment ce que je dis. Le problème, je le vois bien. C'est ce que je suis et ce que je suis en train de devenir à chaque fois que je sors de là. Je parle de ce film Tirailleurs qui parle bien de la France, qui parle bien de la guerre. Et c'est assez clair, en fait, le propos. Maintenant, on essaye de dire autre chose, on essaye de faire un nuage de fumée autour de la promotion de ce film. Mais ce qui est clair, c'est pas ce que je dis qu'on attaque, Yann. C'est moi. Et c'est pas un problème. Trop tard, les gars.
Qu'est-ce qu'on en pense, ça ?
À vrai dire, moi, je comprends pas que ça fasse autant polémique, ce qu'il a dit. Parce qu'en soi, d'autres l'ont déjà dit avant, enfin... Il n'y a pas vraiment de question d'ingratitude, c'est une réalité. La guerre en Ukraine, c'est terrible, mais il y a aussi d'autres guerres dans le monde qui défraient un petit peu moins la chronique, si je puis dire.
Ah, et puis il a raison, en fait, il fait une constatation, hein, de toute façon.
Ouais, moi je pense que c'est plus vu comme un constat. Après, il s'est fait un peu avoir aussi au jeu des questions, des questions pièges, quoi.
Oui.
Et ce que fait remarquer Omar Sy, c'est ce que faisait remarquer il y a pas très longtemps sur les ondes de Bac FM des gens d'une association justement qui œuvre pour les migrants. Donc voilà.
Ouais, je suis d'accord. En tout cas, Les Tirailleurs, c'est toujours à l'affiche de votre cinéma. Pas de polémique là-dessus, foncez le voir. C'est un film très important et très engagé dans tous les cas. Voilà pour le point sur le box-office français. Pink arrive dans quelques instants, juste après avoir souhaité un joyeux anniversaire à monsieur Albert Dupontel, donc.
Tout à fait, Théo. Donc aujourd'hui, mercredi 11 janvier, comme tu le disais, on fête les 59 ans d'Albert Dupontel, donc grand nom du cinéma français, hein, puisque l'homme qui, non content d'être acteur, est également réalisateur et scénariste. Mais revenons un petit peu sur le début de sa carrière. Donc la première fois qu'on a pu voir Albert Dupontel au cinéma, c'est en 1988, dans le film Encore, de Paul Vecchiali, donc un film qui parle d'homosexualité et de son évolution pendant les années 80 où le sida a fait rage. Le héros qui découvre son attirance pour les hommes va donc vivre cette discrimination qu'ont vécu les personnes homosexuelles à cette époque, et ici Albert Dupontel joue un rôle secondaire puisqu'il interprète le gendre du personnage principal. Donc c'est un début de carrière et on va faire un petit bond dans le temps puisqu'après un début de carrière qui débute très très bien, fin des années 80 et début des années 90, on retrouve Albert Dupontel en 87. Donc alors bien sûr, je vais pas pouvoir vous parler de tous les films dans lesquels il a joué puisque sinon on en aurait
pour quelques heures.
Mais donc oui, c'est bien en 96 qu'il sortira le tout premier long métrage réalisé par ses soins, Bernie. Donc ici, on suit l'histoire d'un orphelin qui s'invente des histoires déjantées et fabuleuses. Donc notamment, il s'imagine l'existence de parents modèles, genre il aurait des parents incroyables, et il devra les sauver d'un vaste complot organisé par la mafia. Donc un film un petit peu perché, mais qui marque avec fracas l'entrée d'Albert Dupontel dans le monde de la réalisation et de l'écriture de scénarios. D'ailleurs, c'est un monde qu'il est loin de quitter. En 2004 sort le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Dans cette histoire sur fond de Première Guerre mondiale et qui parle de l'enquête d'une jeune fille à la recherche de son amour disparu au front, Monsieur Dupontel n'a qu'un rôle secondaire puisqu'il est l'un des derniers à avoir côtoyé le jeune homme disparu. Mais je parle quand même de ce film parce que on remarquera plus tard que Jean-Pierre Jeunet et Albert Dupontel retravailleront plusieurs fois ensemble au cours de leur carrière respective.
Collaboré à de nombreuses reprises.
En 2013, il réalise la comédie 9 mois ferme. Donc on y suit Ariane, juge célibataire endurcie, qui évite les relations amoureuses. Mais Quand elle se laisse aller à boire un petit peu trop le soir du nouvel an, elle perd le contrôle et découvre 6 mois plus tard qu'elle est tombée enceinte. Problème, le père se retrouve être un cambrioleur multirécidiviste accusé d'avoir démembré un vieillard et de lui avoir mangé les yeux. Bon appétit. En découvrant qu'elle porte son enfant, il lui propose un marché, ne rien dire sur ce qu'il s'est passé entre eux, mais en échange, elle doit l'aider à prouver qu'il est innocent dans cette affaire sordide de meurtre. Donc Albert interprète donc ici le fameux cambrioleur du nom de Bob Nolan. Un film assez différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais qui reste dans cet esprit un petit peu déluré que peut avoir Albert Dupontel. En 2017, il réalise le très beau film Au revoir là-haut, adapté du roman du même nom écrit en 2013 par Pierre Lemaitre. Le film nous présente une histoire d'amitié au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc deux anciens soldats qui furent abusés par leurs supérieurs et qui doivent vivre avec les séquelles de la guerre au quotidien. L'un d'entre eux ayant été défiguré par un éclat d'obus et est devenu accro à la morphine, l'autre délaissé par la femme qu'il aime et ayant perdu son emploi, devant subvenir aux besoins de ses besoins à lui et les besoins de son ami. Ces deux laissés pour compte vont tout de même trouver une solution pour leur permettre de vivre plus dignement, mais malheureusement cette solution est tout sauf légale. On retrouve donc Monsieur Dupontel sous les traits de Albert Maillard, le second soldat qui doit s'occuper de son ami défiguré, donc un beau film, touchant, avec une pointe d'humour. Et plus récemment alors, en 2020, l'acteur et réalisateur français va écrire Adieu les cons, une comédie dramatique où Suze, donc une quarantenaire, apprend qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre et n'a alors plus qu'un seul but, retrouver l'enfant qu'elle a mis au monde à 15 ans et qu'elle a abandonné sous la pression de ses parents.
Et Suze est jouée par Virginie Efira.
Effectivement. Donc, elle va aller voir un service d'administration pour retrouver son enfant, mais on lui annonce que cela prendra des mois. Dans la pièce d'à côté, en revanche, Jean-Baptiste, incarné par notre cher Albert Dupontel, un informaticien de génie, tente de se suicider, mais échoue et blesse grièvement l'agent administratif qui s'occupait de Suze. C'est alors que cette dernière se rend compte du talent de Jean-Baptiste et elle prend une décision incongrue. Elle l'embarque avec elle dans la recherche de son enfant en lui promettant de fournir la preuve que la blessure causée à l'agent n'était qu'un accident. Donc pareil, un film très touchant. Donc là, on est sur une comédie dramatique. On rigole, on pleure normalement. Mais voilà, donc on voit bien que Albert Dupontel a une petite affection pour le drame mélangé.
Le drame mélangé à la comédie. Ouais. Mais c'est bien, Adieu les cons. C'est marrant comme film.
Et il est très très bien. Ouais. Donc en clair, je pourrais pas vous faire une retranscription fidèle de la carrière d'Albert Dupontel. Je vous laisse aller la regarder vous-même, tant elle est vaste. D'acteur à réalisateur en passant par humoriste, puisqu'il a créé deux one-man shows dans les années 90. Sa carrière est, cela dit, loin d'être complètement derrière lui, puisque déjà il jouait dans Big Bug de Jean-Pierre Jeunet, encore une fois.
Alors ça, par contre. Tu l'as vu ou pas?
Non, je l'ai pas vu.
Ah non, vraiment, non. Non. Ça, c'est pas possible. Mais je l'ai vu vraiment, je me suis forcé à le finir.
Ah oui?
Sans déconner.
Bah, en tout cas, il jouait dedans en 2022 et, dans le futur, un film réalisé par ses soins du nom de Second Tour est annoncé pour cette année. Donc, on reste à l'écoute.
Qui parlera de... On sait pas encore. Suspense.
On sait juste que le titre sera Second Tour, mais de fortes chances.
Donc à suivre.
À suivre.
À suivre. Et puis avant de retrouver Pink, on peut quand même aussi faire un petit clin d'œil. Ce même jour, le 11 janvier, on était en 1916, il y avait Bernard Blier aussi.
Oui,
qui naissait, un grand acteur français, on peut lui faire quand même faire un petit clin d'œil. Bernard Blier, c'est quand même 146 films, un César d'honneur en 1989, et puis des films qu'on ne cite plus, Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes, il y a aussi Les Misérables, où il a joué à côté de Jean Gabin, et Le Grand Restaurant à côté de De Funès. Il était né le 11 janvier 1916, voilà.
J'ai dû faire un choix, malheureusement.
Oui, non, mais tu as raison, mais bon.
Voilà. Mais c'est bien de faire un petit clin d'œil.
On revient avec les sorties de cette semaine, juste après le dernier Pink. Vous êtes sur Bac FM, bougez pas, merci d'être avec nous. Told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh, don't try me, really not tonight. I'll lay down and die, I'll scream and I'll cry. We've already wasted enough time. I'm never gonna not dance again. I'm never gonna not dance again. Oh, I just wanna pop in the
fucks, don't care if I belong, no. If I could kill the thing that makes us all so dumb, we're never getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight. I'll lay down and die.
Sur le 106.2 Bac FM, bienvenue si vous nous rejoignez, je suis avec Laetitia et Marie, Action, votre rendez-vous ciné de la semaine. Et puis on a parlé juste avant du box-office, on va regarder ensemble les potentielles arrivées prochaines avec les sorties de la semaine, c'est parti.
Pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Voilà, on a les droits.
7 nouveaux films à l'affiche de votre ciné Mazarin cette semaine. Un film jeunesse diffusé jusqu'à dimanche. Ça s'appelle Grosse Colère. C'est illustré et écrit par la même personne qui est Mireille Dallancé. Et puis, il y a aussi Sous les Figues, un film tunisien qui retrace les émotions, les parcours de vie de plusieurs femmes qui travaillent dans une récolte de figues et qui font du verger au fil de la journée, un théâtre d'émotions. Des émotions, il y en a aussi dans un autre film qui s'appelle Arca. Arca, c'est le parcours d'Ali, un jeune Tunisien rêvant d'une vie meilleure en vendant de l'essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit s'occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Alors face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s'éveille à la colère et à la révolte, celle d'une génération qui, plus de 10 ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre. C'est politique, c'est engagé et profond, et c'est aussi ce qui a fait choisir le rôle à l'acteur d'Ali. Il s'appelle Adam Bessa, il explique pourquoi, écoutez.
La première des raisons, je pense que ce qui a attiré ma curiosité, c'est que moi étant d'origine tunisienne, j'avais jamais encore fait de film en Tunisie, où j'avais jamais interprété de personnage tunisien. Donc ça déjà ça avait éveillé un peu ma curiosité, j'avais l'envie en fait de faire ça déjà depuis quelques temps. Et ensuite à la lecture du scénario, j'ai trouvé que l'adaptation contemporaine des événements du printemps arabe et de le tourner dans une manière plus réaliste, dans le sens où aujourd'hui la situation finalement a pas changé, en fait elle a évolué certes, mais les choses prennent du temps, et j'ai trouvé ça vachement fort, et de faire un personnage en fait qui arrive à faire le pont en fait entre tous ces pays finalement qui vivent un peu ces évolutions difficiles de sortie de dictature, ou dans lesquelles qui peuvent être gangrénés par la corruption, ou tout simplement même nos pays occidentaux qui peuvent avoir cette sensation un peu d'enfermement. Je sais que le réalisateur aimait bien Taxi Driver à ce niveau-là, où quand on sent qu'on est exclu un petit peu, quand on sent qu'on est en train de vriller, qu'on est mis à l'écart un petit peu comme ça, et ça nos sociétés aussi le créent, une forme de marginalisation naturelle de par la pauvreté ou de par le fait. Et ça, c'est des personnages que moi je trouve toujours très intéressants à incarner, parce qu'ils ont une ils représentent en eux quelque chose à la fois de politique, à la fois d'humain et inter. Moi, j'aime bien les personnages qui peuvent parler à des gens de toute communauté, de tout pays, de tout et même féminin en fait, de sortir du jeu, vraiment qui portent en eux une humanité, à la fois qui sont très précis et en même temps qui portent en eux une grande humanité à laquelle on peut se retrouver. Et ça, c'est vraiment quand ce personnage, je trouvais qu'il avait vraiment toutes ses qualités, quoi. Et la vision dont on avait le réalisateur était aussi très précise, du coup, ben ouais. Ouais, j'ai jumpé direct.
Arca, c'est au ciné Mazarin depuis aujourd'hui. Allez, respiration, je me concentre. Les Banshees d'Inisherin.
Oh,
yes.
Bravo.
Le premier coup, hein. Par contre, mot compte double. C'est la comédie dramatique avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Elle est déjà sortie dans certaines salles. Elle arrive au ciné Mazarin et elle a une très bonne critique. L'histoire toute bête d'une amitié brisée sans trop savoir pourquoi l'un n'aime plus l'autre et comment l'autre va essayer de récupérer l'un. D'accord.
C'est compliqué.
T'as compris ? Ouais, c'est voilà. Il y a aussi une histoire de doigts coupés aussi, si tu veux savoir dans l'histoire. Mais il faudra aller voir. Salué par la majorité de la critique, le film est décrit comme une leçon d'espoir et d'amitié dans un décor fait pour les personnages. La sortie française, maintenant, de la semaine, propose un duo jamais vu à l'écran, Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig. Grégoire Ludig, tu sais, c'est un des duos du Palmachot.
Mmh. Ah oui.
C'est le plus beau gosse des deux. Si je peux te donner un indice, Marie. Les Cadors, l'histoire de deux frères que tout oppose, Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateau, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur. Quand Antoine, le mari idéal, se retrouve mêlé à une sale histoire, c'est Christian, le mal-aimé, qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg, où se déroule l'histoire, pour voler à son secours. Les Cadors, comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian, qui n'a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu'il a toujours rêvé d'avoir, sans jamais avoir eu le courage de la fonder. Julien Guetta, le réalisateur, et Grégoire Ludig parlent de leur participation au film.
L'histoire de ces deux frères m'a tout de suite intéressé et de là j'ai pris le scénario, j'ai accepté de faire le film. J'ai développé le scénario à ma manière, disons. Donc les premières versions c'était dans l'univers du bâtiment, puisque à la base c'est l'histoire vraie du père et de l'oncle de Lionel. Donc ils étaient travailleurs sur les chantiers autour de Paris, je crois que c'était des Morlusards. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait déplacer le milieu des bâtiments, tout ça, pour l'emmener dans le monde des dockers.
Julien a eu la bonne idée, je trouve, en tout cas la gentillesse, et m'a fait le plaisir de me proposer ce rôle d'Antoine. Et voilà, il m'a appelé, on s'est rencontrés, je crois, assez rapidement. C'était vraiment ça, on a discuté, on a parlé du film, et ça m'a plu. Et puis le monde des dockers était un monde que je connaissais pas non plus.
Les Cadors avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. Et puis on finit sur les sorties de la semaine, et alors là je te laisse donner ton avis Laetitia en technique, c'est la sortie horreur de cette semaine, et ça confirme ce qu'on dit toutes les semaines, c'est qu'il y en a de plus en plus, et celui de cette semaine s'appelle L'Emprise du Démon.
Oui, à 9h, parce que je crois qu'il y en a une deuxième qui n'est pas sortie, c'est Terrifier 2,
ouais,
mais il
n'est
pas au ciné Mazarin, donc on va s'intéresser effectivement à L'Emprise du Démon. C'est un film britannico-américain d'Oliver Park, avec Nick Blood et Emily Wiseman. Alors ils sont pas très très connus, quoique Nick Blood, on a pu le voir faire un petit rôle dans la série Euphoria.
Ah oui, donc... ah bah c'est la série que tu me parlais hier.
Exactement.
Ici, c'est ça.
Donc l'histoire de L'Emprise du Démon, eh bien c'est Claire et Arthur, c'est un jeune couple de confession juive, ça a son importance. Ils attendent un premier enfant et ils vont décider pour cette occasion de renouer avec leurs liens familiaux. Ils vont donc s'installer chez Saul, c'est le père d'Arthur. Alors jusqu'ici on n'a rien de bien effrayant, sauf que le vieil homme possède une entreprise de pompes funèbres. Il y réside, hein, c'est souvent le cas dans les pays anglo-saxons. Et alors que les retrouvailles battent leur plein, eh bien dans la morgue familiale repose le cadavre d'une mystérieuse jeune fille. Et on va vite le découvrir, elle n'est pas arrivée seule, puisque sa dépouille contient une entité surnaturelle. En l'occurrence, c'est le démon Abizou.
Le fameux démon.
Exactement. Et une fois qu'il va être libéré, ce démon Abizou, eh bien, il va en faire voir à toute la famille dans le but, finalement, de posséder le bébé à naître.
Ok.
D'accord.
Ça, c'est le pitch. Alors, vous allez me dire, des films de possession depuis L'Exorciste, on en a vu passer une certaine quantité.
C'est un peu une thématique qui revient souvent
dans les films d'horreur. Ça revient souvent, bien sûr. Sauf que, en général... dans ces films d'épouvante de possession, pour chasser le démon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit débarquer un prêtre qui est armé de son crucifix, sa Bible, son eau bénite. Sauf que là, l'emprise du démon va se distinguer un peu de tout ce folklore du film de possession, puisque ici, tout est abordé via le prisme du judaïsme.
Ok.
D'accord. Voilà, et c'est ça qui fait un petit peu la différence sur les autres films, en fait.
C'est très 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 souvent le catholicisme, quoi. Enfin, en général, quand on parle démon, on pense tout de suite au prêtre, son crucifix, sa Bible, ce que je disais tout à l'heure. Là, je pense que ça change un peu la donne. Alors, j'ai pas vu le film, j'ai vu que la bande-annonce, mais rien que ce fait, justement, qu'on aille voir un peu ce qui se passe dans les autres religions, puisque finalement, le démon, on le retrouve, enfin, les démons, on les retrouve dans toutes les religions. Donc, voilà, ce qui me paraît très intéressant dans l'emprise du démon.
Est-ce que tu penses qu'il est efficace, celui-là, Letty, ou pas ?
Alors, d'après ce que j'ai vu des premiers spectateurs, certains parlent d'un rythme lent. Alors, il y en a qui ont apprécié, justement, que ce soit un peu psychologique, d'autres un peu moins, d'autres qui ont dit « ouais, je me suis ennuyé, ça se traîne un peu ». Après, à voir.
Est-ce que tu le vois dans le box-office ou pas ? Parce que moi, ça m'étonne. Moi, personnellement, qui ne suis pas forcément un très grand amateur de films d'horreur ou quoi, d'épouvante, ça m'étonne de voir régulièrement quand même des films arriver dans le box-office, comme Megan, là, dernièrement. Il y en avait un aussi il y a quelques semaines avant Noël.
Non, moi, je pense pas qu'il arrive dans le box-office. Alors, ce sera peut-être une surprise, peut-être que je me trompe. Ouais. En général, les films d'épouvante qui arrivent dans le box-office, c'est quand même des grosses machineries américaines.
Ouais, ok.
À part quelques surprises, parfois.
Bon, donc réponse semaine prochaine.
Bah oui, j'ai hâte de savoir.
Et puis il y a 3 avant-premières aussi de prévues avant mercredi prochain au ciné Mazar à Nevers. Dimanche à 10h45, film jeunesse avec les aventures de Patty qui doit affronter la colère de Poséidon. Patty, c'est une souris qui est pote avec un chat et qui va devoir affronter les créatures mythologiques dans cette aventure. C'est très coloré, il y a un petit peu d'humour aussi au milieu de tout ça, c'est très sympa. Je vous propose la bande-annonce.
Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne.
Nous devions démontrer notre gratitude à Zeus.
Trop stylé !
La ramène pas trop quand même, qu'il y en a un qui va finir par mal le prendre.
Ma colère est immense ! Je voulais 7 jours pour me faire une statue aussi belle que celle de mon frère.
En route pour l'aventure !
On n'a aucune idée des dangers qu'on va rencontrer.
T'inquiète pas trop.
Des éclairs, rajoute des éclairs.
Quelle bande de gamins.
C'est peine perdue, abandonne ce projet.
Tu verras de quoi je suis capable.
Allez, attrapez-les.
On peut affronter les créatures les plus terribles. Surmonter des épreuves impossibles. On est une famille.
Quand est-ce qu'on arrive?
Le 8 février au cinéma.
C'est le 8 février au cinéma, mais c'est en avant-première au cinéma Mazarin, dimanche à 10h45, et c'est juste avant celle de 16h30, ça s'appelle La Guerre des Lulus.
Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Je suis l'abbé Turpin, et voici votre instituteur, monsieur Letellier.
Ludwig sera votre nouveau camarade. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil.
Tu vas te faire plein de nouveaux amis.
Lucas.
Lucien.
Luigi.
Et Ludwig.
Des frères.
Les Lulu.
Tournez-moi les gars.
Ils m'oublient tout le temps.
Tu as déjà goûté au vin de messe?
Et pas qu'une fois.
Mais c'est pas correct de boire le vin de messe.
Qu'est-ce que tu crois? Que le ciel va nous tomber dessus?
Je vous l'avais dit, personne ne m'écoute jamais.
L'orphelinat, il a été évacué. Et le village aussi. On est en guerre.
On est tout seul maintenant.
On n'est pas seul, Lucas, on est ensemble.
Vous parlez français?
Mais oui, on parle français.
On veut savoir qui tu es.
Moi, c'est Luce. Ça fait de moi une Lulu.
Non, non. Faut qu'on s'organise. Quand faut vous aller ou dormir? Les Allemands sont partout dans le village.
Faut qu'on aille en Suisse. Il n'y a pas la guerre là-bas.
Moi, c'est Moussa, grand pourfendeur des éléphants.
On a marché jusqu'en Afrique.
Réveillez-vous, c'est pas un conte de fées, c'est la guerre.
Ce sont des enfants. Je vais les guider.
Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami?
La guerre, c'est pas un truc de fille. T'as compris? Oh, attendez-moi!
La guerre des Lulus est un film inspiré de la série, de la BD même, du même nom. À l'aube de la Première Guerre mondiale, on est dans un village de Picardie. Quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d'Octave ou pour échapper à la surveillance de l'abbé Turpin, qui est joué donc dans le film par François Damiens. Lorsque l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l'appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Ils sont rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents. Ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le pays qui n'est jamais en guerre. Les voilà donc projetés avec toute l'innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés. Alors, il y a un petit peu des airs de La Guerre des Boutons, c'est
ouais,
un joli
quand
film.
Même dans le titre. Hein,
Ouais. Mais c'est une BD de base.
Okay,
et
d'accord.
Les créateurs de la BD ont assisté aussi au tournage, avaient leur avis à dire, etc.
Ok.
Voilà. Et donc c'était un film qui ressemble un petit peu à La Guerre des Boudons. C'est un joli film à aller voir en famille dimanche à 16h30, donc au cinéma Mazarin. Et puis on termine avec celle de mardi. C'est le soir à 19h30, Babylone, avec entre autres Brad Pitt et, on en parlait semaine dernière, celle qui est tout le temps présente en ce moment, Margot Robbie. C'est sur la création d'Hollywood et la démesure de plusieurs personnages entre histoire vraie et récit inventé. Sensualité et glamour, c'est un film qui, personnellement, moi, me donne beaucoup envie. C'est réalisé par Damien Chazelle qui a signé La La Land. On va en parler beaucoup la semaine prochaine car ça sort mercredi prochain et je l'aurai vu, donc on fera un petit focus là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui vous tente, vous, les filles, là, dans les films qu'on vient d'évoquer? Parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose, hein, c'est pas la folie.
Déjà, Babylone, comme tu viens de dire. Il a l'air vraiment intéressant. En plus, bon, personnellement, j'aime beaucoup Margot Robbie.
Ouais.
Donc, moi, ça ne me déplaît pas qu'on la voit partout en ce moment. Donc, ça va, ça a l'air assez intéressant. Et puis, sinon... étrangement, La Guerre des Lulus, je sais pas pourquoi.
Ouais.
Alors, ça a l'air mignon, touchant.
Ouais. Puis il y a un beau casting.
Oui, en plus. Donc, je pense que ça serait ces deux-là.
Il y a aussi Didier Bourdon, il y a Ahmed Silla qui joue dedans aussi.
Ah oui. Donc, je pense que ce serait ces deux-là qui m'attireraient le plus.
Et toi, Letty, hormis l'emprise du démon?
Bien évidemment, l'emprise du démon, mais aussi La Guerre des Lulus, parce que ça me fait un peu penser à deux films que j'ai beaucoup aimés. Un dans mon enfance, bien plus récent. Il y avait Après la guerre, à la toute fin des années 80, avec Richard Boringer, justement, ce qui se passait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des enfants. Et puis Un sac de billes aussi, ça me fait un peu penser à ça. Et c'est une période qui m'intéresse
beaucoup.
Avec
Patrick Bruel, je crois.
Oui, exactement.
Il était bien celui-là.
Il était très bien.
Il y a un film qui sort pas et moi je suis un petit peu déçu, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'appelle Les Rascals. On en a parlé, Letty, d'ailleurs, tous les deux.
Oui, on l'a évoqué hier.
C'est l'histoire d'une bande de jeunes de banlieue qui profitent de la vie insouciante des années 80. Ça, c'est le synopsis. Hein. Chez un disquaire, l'un d'eux reconnaît un skin qu'il avait agressé et décide de se faire justice lui-même, témoin de la scène. La jeune sœur du skin se rapproche d'un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des rascals. Alors que l'extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d'amis est prise dans un engrenage. C'est la fin de l'innocence. C'est un petit peu, en fait... c'est l'histoire de bandes, des skins, tout ça. Ça rappelle un peu ces années-là, les années 80 et tout. Et je trouve ça décevant que le cinéma Mazarin, parce qu'il est quand même pas mal projeté, ce film. Et je trouve ça dommage que le cinéma Mazarin le diffuse pas.
C'est ton carton rouge.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est mon carton
comme
rouge.
Comme tu disais tout à l'heure, Théo Chafouin.
De la semaine, Théo Chafouin. Et puis, elle est nommée pour les Victoires de la musique qui viennent de tomber. Alors là, on est dans deux salles, deux ambiances. Hein. La cérémonie, c'est le 10 février sur France 2. Il y a Aurel San, il y a Angèle, il y a Stromae, il y a Tiakola, il y a Pomme aussi. C'est pas l'entracte, hein, Pomme. C'est la chanteuse, Marie. Je te vois me regarder bizarrement. C'est une partie de la liste.
Je connais, Pomme, ne t'en fais pas.
Et dans la catégorie chanson originale, c'est Cœur de Clara Luciani qui fait partie des nommés. C'est ce qui arrive tout de suite. Et on revient juste après avec Marie et son film du grenier.
T'es comme un vol qui s'accroche à tous les clous. Tu t'effiloches, tu t'abîmes à tous les coups. Good.
Clara Luciani sur Bac FM, nommée dans la catégorie chanson originale pour les victoires de la musique. Elle n'est pas nommée dans une catégorie, mais par contre, comme chaque mercredi en fin d'émission, Marie, elle fait un tour dans son grenier pour dépoussiérer un film. Et aujourd'hui, honneur à un certain Monsieur V.
Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Evie Hammond? Vous êtes officiellement accusé de trahison, de terrorisme et de sédition. La peine encourue est la mort devant un peloton d'exécution. Il vous reste une seule chance de sauver votre vie. Révélez-nous l'identité ou la cachette du surnommé V. Est-ce que je me suis bien fait comprendre?
Oui.
Êtes-vous prête à coopérer?
Non.
La vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays.
Wow! Excusez-moi, mademoiselle.
Je suis désolée.
Non, pas encore. Mais ça viendra.
Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta.
Si notre gouvernement était responsable de la mort de 100 000 personnes, vous tiendriez à le savoir?
Vous vous vengez d'eux pour ce qu'ils vous ont fait.
La peur est devenue l'instrument suprême de ce gouvernement.
Je veux que chacun de vous se rappelle pourquoi il a besoin de nous.
J'aimerais ne pas avoir peur sans arrêt.
Les peuples ne devraient pas craindre les gouvernements. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
C'est précisément ce qu'il veut. Le chaos.
Souviens-toi du 5 novembre.
Et donc oui, aujourd'hui nous parlons d'un film particulier puisqu'il s'agit d'un de mes films préférés. Donc bon, j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque émission. Mais je vous assure que c'est vrai, on parle d'un film qui parle de liberté, d'un film qui parle de la force des idées. On parle de V pour Vendetta. Donc il s'agit d'un film américano-germano-britannique réalisé par James McTague, sorti en salle en 2006. On y suit l'histoire d'Avy, une jeune femme vivant en 2038 dans un Londres fasciste dirigé par un dictateur et manipulé par la propagande et la privation de la liberté d'expression. Alors qu'elle sort de chez elle un soir, elle se fait surprendre en train de braver le couvre-feu mis en place, et alors que la milice au service de l'État la retient, un homme mystérieux portant un masque apparaît pour la sauver. Il se présente sous le nom de V et lui propose d'assister à un petit spectacle. Il l'emmène alors sur le toit d'un bâtiment pour assister à l'explosion de la Cour suprême du parti fasciste au pouvoir. Explosion que V a lui-même organisée. Le lendemain, alors qu'Evie est rentrée chez elle et a repris son travail à la BTN, chaîne de propagande du parti, elle entend les animateurs prétendre que l'explosion et la destruction du bâtiment ont été prévues depuis très longtemps, juste avant que la chaîne ne soit hackée par V pour annoncer qu'il est celui qui a fait sauter la cour et qu'il compte faire de même dans un an avec le bâtiment du Parlement. De plus, il invite la population à se soulever contre ce gouvernement qui les prive de liberté et qui organise des rafles pour se débarrasser des parasites de la société, entre guillemets, comme les homosexuels, les étrangers ou même les opposants du parti. Alors que la police arrive sur les lieux pour arrêter V, Evie s'interpose pour l'aider et s'enfuir avec lui. Après l'avoir emmené dans sa cachette, V lui annonce qu'elle va devoir rester ici pendant un an, car désormais elle est une fugitive au même titre que lui. Un film sombre avec une pointe d'espoir qui parle de révolution. Adapté d'une série de comics britanniques du même nom, le film fait de nombreuses références à notre histoire. Par exemple, le jour que V choisit pour faire sauter le Parlement est le 5 novembre, date symbolique surtout en Angleterre, puisque le 5 novembre 1605, un homme du nom de Guy Fawkes avait, comme V, le but de faire sauter le Parlement, mais a échoué. Depuis, un événement est célébré tous les ans à Londres et en Angleterre en général, où l'on fouille les sous-sols du Parlement, faisant mine de chercher le fameux Guy Fawkes et faisant péter des pétards, des feux d'artifice. D'ailleurs, le masque que porte V tout au long du film, qui est aujourd'hui d'ailleurs dans l'inconscient collectif représente les Anonymous, eh bien, ce masque, c'est un masque qui représente le visage de Guy Fawkes. En plus de son côté film sombre et épique de combat contre l'oppression, le film n'hésite pas à être touchant et à faire passer un message de tolérance, notamment avec le personnage de Valérie, personnage qui n'existe à l'écran que par une lettre et un flashback, donc une lettre qu'elle a laissée où elle raconte son histoire en tant qu'actrice lesbienne qui a trouvé une fin tragique lors d'une rafle organisée par le parti au pouvoir. Sûrement un des passages, je trouve en tout cas, les plus beaux du film. Mais le message le plus important que le film fait passer, c'est le message sur l'immortalité des idées. De tout le film, V ne retire jamais son masque, jamais on ne voit son visage, et ce pour une très bonne raison qu'il explique lui-même, il n'est qu'un homme, et les hommes peuvent mourir et être oubliés, pas les idées. Et en portant son masque, il devient l'incarnation de cette idée de liberté qui peut animer tout un peuple. D'autres pourraient prendre sa place, car ce n'est pas l'homme sous le masque qui importe, c'est l'idée derrière l'homme. Et en tant qu'adaptation, même dans la forme, ce message est transmis, puisque les comics, qui eux sont sortis entre 82 et 90, dénonçaient à la base les déviances autoritaires du gouvernement de Margaret Thatcher à Londres. Et les sœurs Wachowski, donc scénaristes et productrices du film, ont transformé cela en une lutte contre tous les états autoritaires qui offrent la sécurité contre la liberté, adaptant donc le message à un contexte plus proche du XXIe siècle. Alors, vous avez pu vous en rendre compte, hein, j'aime beaucoup ce film, hein, je crois que ça s'entend, mais apparemment, je ne suis pas la seule, puisque le film a rapporté 132 millions de dollars au box-office mondial, dont 70 000 rien qu'aux États-Unis.
Ce qui est énorme pour l'époque.
Ce qui est énorme pour l'époque. En plus d'un succès économique, c'est aussi un succès critique, avec 73% de critiques favorables à sa sortie, ce qui est quand même un pourcentage relativement élevé. Et de très bonnes moyennes, toujours aujourd'hui, sur les sites qui s'occupent de noter les films, donc comme Rotten Tomatoes ou Allociné. Donc en clair, un film fort, puissant, épique et touchant, que je vous conseille de tout mon cœur. Et n'hésitez pas, la seule chose que vous risquez, c'est de découvrir un excellent film.
Et donc à retrouver sur différentes plateformes où il est disponible, je ne sais pas encore, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il est disponible, mais bon, on peut bien le retrouver quelque part.
Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible sur des plateformes, à voir, peut-être...
Mais soyez curieux de le chercher, du moins.
Soyez curieux,
voilà,
c'est ça.
On peut finir là-dessus. Et la semaine prochaine, on sera curieux de faire un retour sur la carrière de Kevin Costner, c'est ça ?
Tout à fait.
Car ce sera son anniversaire. Merci Letty, merci Marie,
merci à vous.
C'est
merci.
La fin de cette émission. Nous, on se retrouve à 13h avec mes invités, on parlera du Pass Nevers. À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.